CFM Villefranche, le mag.
Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre, édition du mag Aveyron de ce lundi 30 mai. Les lundis, vous le savez bien, on parle de santé, de bien-être, de fleurettes, de pâquerettes et d'assiettes avec Karine Weck. Karine Weck Justo, nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût. C'est un partenariat qui dure depuis quelques années, cette histoire. Hein.
Bonjour à tous, depuis 2013.
Et on va parler de fleurettes et de pâquerettes un petit peu plus tard avec Didier Vallet, haut spécialiste des plantes aromatiques et médicinales et aussi et surtout sommité fleurie de la biodynamie. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Aujourd'hui, Karine, de quoi allez-vous nous chafouiner, rassasier les oreilles? Dites-nous.
Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous parler. On est aujourd'hui le 30 mai, on précède la semaine où on va diffuser le petit menu mensuel. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vos auditeurs de savoir pourquoi, effectivement, est-ce qu'on peut raisonner sur des menus comme on le fait habituellement, en parlant de l'équilibre. Pourquoi c'est intéressant, peut-être, pour ceux qui le souhaitent, en tous les cas, de construire en amont les menus.
Il faut du temps pour préparer tout ça.
Alors, il faut du temps. Oui, peut-être il faut un petit peu de temps. Ceci dit, quand on est bien rodé à l'affaire, il faut de moins en moins de temps.
Pourquoi
quand
vous
même.
Ne faites pas des fiches?
Alors, je vais répondre à cette question. Je réponds à celle d'avant en premier, d'accord? Ça prend un petit peu de temps, je suis d'accord avec vous. Mais une fois que c'est fait, après, par contre, c'est sorti de la tête. Et vous savez bien, David, tout ce qui est dans la tête n'est pas au bon endroit. D'accord? Parce que de toute façon, on y pense tout le temps, hein, à ce qu'on va manger ce midi, à ce qu'on va manger ce soir. Tiens, il faut que je m'arrête de faire trois courses. Et au final, ça prend du temps aussi. Sauf que ce temps-là, il est éparpillé un petit peu dans la semaine et on s'en aperçoit pas. Oui. Effectivement, si on se pose derrière une table et qu'on fait des menus pour une semaine, admettons, on va prendre une heure, on va avoir l'impression, entre guillemets, d'avoir perdu une heure.
Sauf qu'on peut reproduire ce menu, cette semaine de menu, un petit peu plus tard dans l'année. Là,
exactement.
C'est du temps gagné, là, c'est bénef, là.
Exactement, tout est bénef. On peut les garder, on peut les classer par saison, etc. C'est un outil quand même en consultation diététique, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, qu'on utilise beaucoup, en fait, avec l'objectif avoué de rendre nos patients autonomes. Et c'est là où je réponds à votre deuxième question. Si on donnait des fiches avec des menus tout faits, imaginez que ce soit le cas, on pourrait imaginer que c'est moi qui ai fait les menus. Or, et on a vraiment 0% de chance que mes menus à moi vous correspondent, que ce soit en termes de goût, que ce soit en termes de contrat. Alors, les auditeurs ne vous voient pas, mais oui, vous rigolez, je sais, vous n'aimez pas toujours mes menus. Vous voyez, hein. Donc effectivement, mais même au-delà des goûts, au-delà des contraintes financières, au-delà des contraintes temporelles, du nombre de convives à table, etc., etc. Donc, il y a 99% de chance que les menus que je vous proposerai tout fait, parce que c'est une demande que j'ai régulièrement, bien entendu, de la part de mes patients, ça ne vous colle pas à la peau. Les patients suivent de A à Z les menus proposés. Ah, oui. Or, effectivement, là, on est très loin de l'autonomie. C'est pour ça que moi, je préfère en consultation accompagner mes patients pour co-construire, on va dire, avec eux, des menus, en partant par exemple des plats qu'ils aiment bien, mais qui, en période où ils veulent faire attention, ne s'autorisent pas. Une pizza, par exemple, hein, c'est l'exemple presque le plus courant. Et leur dire, si lundi soir vous mangez une pizza, comment vous pouvez l'accompagner? Qu'est-ce que vous pouvez manger le midi? De manière à, sur la journée, garder l'équilibre, voire même sur la semaine. Hein, je cite régulièrement l'exemple de la raclette. Si je mange tout mon fromage samedi, dit et que j'en mange pas le reste de la semaine, finalement, j'ai pas un surplus de fromage au niveau hebdomadaire.
Notez, c'est l'un des seuls, la raclette, où il n'y a pas de saison pour en manger. Hein. C'est valable toute l'année. Vous avez vu
si
ça? Vous avez remarqué?
Si vous le dites. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que de prévoir un petit peu les menus, ça permet quand même de combattre tout ce qui est improvisation, parce que souvent, c'est un problème d'organisation. Et à qui ça ne laisse jamais arriver d'arriver tard le soir et de dire qu'est-ce qu'on mange? Il n'y a rien à manger. On sort un pot de pâté et le plateau de fromage. Et voilà. Alors, si ça arrive une fois, de temps en temps, on s'en fiche.
C'est plutôt l'inverse qui est inhabituel.
Voilà, mais par contre, effectivement, si ça arrive de façon régulière, voire quotidienne ou quasi quotidienne, effectivement, on peut à terme créer un déséquilibre. Donc, en prévoyant les choses un petit peu en amont, et je vais aller au-delà, les gens qui se mettent aussi à faire du batch cooking, vous savez, cette notion dont on a déjà parlé, de préparer à l'avance.
Ah oui.
Hein, voilà.
C'est très bien, ça, j'admire.
Bah, voilà. Après, c'est pas la personnalité de tout le monde, encore une fois. Hein. Mais n'empêche que on le sait très bien, nous, aujourd'hui, si vous voulez. C'est ce qui permet quand même, en général, le plus, en tous les cas, de gérer un équilibre au niveau de la semaine. D'accord ? Alors, comment faire, vous allez me dire ? Bah, hyper simple. Hein. On prend une feuille de papier, on découpe en 7 colonnes. Donc, tous les jours de la semaine, on découpe les 3 ou 4 repas selon de la journée et on remplit.
On peut faire repos samedi, dimanche, non ? On fait 5 colonnes.
Alors, eh ben, je ne pense pas que ce soit judicieux. Parce que sur certains, ne vous énervez pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous. On a le droit de discuter. On a, par exemple, ce que je conseille souvent à mes patients qui ont des, justement des week-ends un petit peu plus costauds au niveau alimentation, repas, etc., etc., c'est peut-être de commencer à prévoir ou alors de laisser libre le week-end, sachant que derrière, on a toute la semaine pour rattraper le tir, on va dire. Je vais vous donner un exemple concret. Dimanche, on a prévu d'inviter des amis, on fait un barbecue, alors plutôt avec effectivement des viandes peut-être un petit peu plus riches, quoique on pourrait faire du poisson, hein, mais admettons. On fait un repas un petit peu plus riche avec l'apéritif, un dessert un peu plus sucré aussi. Ben on a toute la semaine pour se dire, ok, ce week-end, j'ai eu des choses plutôt plus grasses, mais lundi, ben, je vais choisir du poisson blanc, mardi, je vais manger des œufs, mercredi, du poulet. Vous voyez, je vais compenser un petit peu les excès que j'ai eu le week-end. Donc, ça permet de lisser sur la semaine. Mmh. Parce que si on y prend garde, on peut très bien faire le barbecue le dimanche et puis mardi soir, arriver tard à ouvrir la boîte de pâté et décongeler à l'arrache le jeudi midi de la saucisse. Hein, vous voyez ?
Donc, très voilà. Bien. Je vois très bien le schéma.
Vous voyez le schéma. Alors, voilà, ça, c'est super important de le travailler pour ceux qui sont d'accord, encore une fois, hein, c'est pas fait forcément pour tout le monde. Et puis, ça permet aussi, je trouve, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à cet équilibre alimentaire. Hein, vous savez qu'on travaille beaucoup sur la pleine conscience, le j'ai faim, j'ai encore faim, j'ai plus faim. Et effectivement, de prévoir au moins le plat principal et de se dire, ben, je vais manger ça. Et puis, je verrai si mon laitage, mon fruit, ben, si j'en ai vraiment besoin parce que j'ai encore faim, je le mangerai. Mais par contre, à l'inverse, si j'en ai pas besoin, je le décalerai à une collation ou autre. Hein, ça, l'idée, c'est que j'ai pas envie d'appeler ça du contrôle. J'ai plutôt envie d'appeler ça de la prise de hauteur de manière à raisonner l'ensemble. Après, ça peut être contraignant de noter au départ. J'ai envie de dire que quand on en a bien l'habitude de cette gymnastique de l'esprit, parce que finalement c'est ça, c'est une gymnastique de l'esprit, quand on en a bien l'habitude, les choses vont se faire au bout d'un moment d'elles-mêmes, sans qu'on ait besoin forcément d'y réfléchir. Vous voyez, hein, parce que l'idée, ce que je constate souvent en consultation par exemple, c'est que si je demande comme ça à brûle pour point ou si je vous demande à brûle pour point qu'est-ce que vous avez mangé il y a 4 jours, il va vous falloir un petit temps de réflexion.
C'est faux.
Alors allez-y.
Du pain de mie, un sandwich au radis.
D'accord. Ben peut-être que de noter, ce serait intéressant pour vous, Nadine, David.
Nadine. Oh, ça ne va plus du tout, ma chère Nadine.
Excusez-nous. Et
D'où l'intérêt de noter. Mais ça devait peut-être pas des radis, c'était peut-être un sandwich aux fraises des bois.
Ah ben c'est pas mal, remarquez, vous avez au moins les végétaux. Ouais. Vous pouvez mélanger les radis et les fraises, hein, pourquoi pas aussi.
Je pense à mon équilibre alimentaire. Construction d'un menu aujourd'hui, bah oui, voilà, c'est des petites notions que vous nous posez sur la table. Après, bah,
c'est un petit outil.
Oui, un outil pour conscientiser encore plus notre alimentation.
Voilà, et puis éviter d'avoir des manques ou des excès, mais en parallèle, de s'autoriser...
Toutes les folies.
Ben, de temps en temps, quelques folies.
Sandwich...
fraise radis.
Radis fraise chantilly.
Là, ouais. C'est une petite folie.
Allez, belle semaine.
Belle semaine également à tout le monde.
Excellente journée, Karine. Et à la semaine prochaine, Karine Weck, on suit votre actualité sur vos différents comptes et réseaux de communication. Instagram, Facebook, TikTok, Ploc, et Villeroy et Boc. Didier Vallet, au spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleurie de la biodynamie. C'est la suite de cette édition du MAG du lundi. Santé, bien-être, mieux-être, fleurette et pâquerette.
CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.
Took a trip to San Francisco. All our friends said we would try. didn't work, so I left for Fresno. It was quite a scenic drive. Pulled over to watch the children in the park. We used to only worry for them after dark. I'm still looking for my own version of America. One without the gun, where the flag can freely fly.
CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.
Vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus suite de cette édition du magazine d'actualité avec en studio, comme annoncé, Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Didier Vallet, sommité fleuri de la biodynamie et haut et grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales. La biodynamie, un univers que l'on explore, un univers tellement vaste qu'on a toutes les deux semaines jamais le temps de tout dire. Et donc, c'est un océan que l'on explore avec vous, suite et fin des préparations, des dynamisations et puis de parler des rythmes aussi au programme aujourd'hui.
Totalement. Bon, c'est toujours. J'ai vraiment des grandes difficultés à restreindre mes explications, même si elles ne sont pas toujours très, très, très rationnelles, mais essayer de faire ressentir un petit peu comment on travaille. Et donc, j'ai essayé de vous montrer, de vous expliquer comment on préparait les six plantes, avec quatre d'entre elles qui vont être mises dans des organes animaux, qui sont la vessie pour la chylée, les intestins pour la matricaire, le crâne pour le chêne et le mésentère, donc une partie de l'estomac, disons du ventre, pour le pissenlit. Et l'ortie et la valériane, eh bien non, l'ortie, on la met comme ça directement dans le sol. Et la valériane, on en fait un extrait qu'on fait fermenter, qui donne un vin de valériane, qui n'est pas bon à boire, hein, je ne vous le conseille pas. Le vin de pissenlit, ça va, mais le vin de valériane, ce n'est pas génial. Donc voilà. Et on les enfouit dans le sol, à des endroits un peu qui correspondent à la plante. Pareil, l'achillée dans un endroit lumineux, l'achillée pousse un petit peu sur les hauteurs, ça pousse pas dans les sous-bois. L'écorce de chêne, on va la mettre dans un endroit humide parce que là, on joue sur deux caractères, le caractère du sec de l'arbre, de sa dureté, et le caractère... On met les deux opposés ensemble, en fait, quelque part, pour toujours le yin du chêne et le yin de l'eau, pour arriver à amener cette partie végétale à un autre niveau. C'est toujours, comme je vous l'expliquais, on amène dans des niveaux vibratoires un peu différents. Et donc, ces plantes qu'on a préparées d'une certaine manière et qu'on met un peu à cuisiner dans le sol en hiver, parce que, pourquoi en hiver ? Eh bien, en hiver, on ne le voit pas, on a l'impression que tout est mort, que la nature est morte. Alors, extérieurement, oui. Plus rien ne bouge, toutes les feuilles sont tombées, les arbres sont des squelettes, mais à l'intérieur, il se passe énormément de choses. Et je voudrais là-dessus vous raconter une petite histoire que me racontait un vieux paysan normand il y a de ça quelques décennies. Il avait été prisonnier de guerre dans le nord de l'Allemagne et donc il travaillait dans une ferme. Il était c'était des prisonniers de guerre, ils étaient placés dans des fermes, ils étaient c'était un paysan, il était dans une ferme, donc ça allait. Et il me racontait, les céréales étaient semées à l'entrée de l'hiver, ils étaient pratiquement pas sortis avant l'hiver, et puis la neige tombait. Il y avait 20 cm de neige tout l'hiver sur le sol, et quand la neige fondait, les céréales, ils faisaient déjà 15 ou 20 cm sous la neige. Ils avaient poussé sous la neige. Donc là, on peut ressentir cette force de vie qu'il y a dans le sol en hiver. Alors la neige, bien sûr, faisait un isolant thermique aussi, donc ça empêchait la plante de geler. Le pire en hiver, c'est quand il y a de la neige, ça ne gèle pas en dessous. Hein. Ça protège les plantes. Hein. Ouais. Mais on peut sentir avec cette petite anecdote que ce vieux monsieur, qui est mort depuis très longtemps maintenant, me racontait un petit peu cette force de vie qu'il y a dans le sol, mais qu'on ne voit pas. Nous, avec nos yeux, on ne voit que ce qui se passe au-dessus. On ne peut pas ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et scientifiquement, c'est en plein hiver que se passent vraiment tous les phénomènes de minéralisation. Hein, les chercheurs scientifiques l'ont bien travaillé, ça. C'est-à-dire le moment où la matière organique va se dégrader pour être transformés en minéraux qui vont pouvoir se dissoudre dans l'eau et être assimilés par les plantes. C'est en janvier-février, du 15 janvier au 15 février, que les phénomènes de minéralisation dans le sol sont les plus grands. Donc là aussi, sur des trouvailles scientifiques, on peut voir ceci. Donc, pour terminer avec ces préparations, on pourrait en parler encore des jours, on va les mettre dans le compost. C'est-à-dire que, si on a un petit compost, il faut mettre on va enfouir les 5 premières préparations, on va faire un trou dans le compost, on va les mettre au fond du trou pour qu'elles soient au cœur du compost. Et la valériane, on va la diluer dans un peu d'eau, mais on en prend un millilitre, on n'en prend rien du tout, un tout petit bouchon de petite bouteille. Et on va la diluer dans l'eau et on va pulvériser le tas de compost avec ça. En fait, on dit que ça lui fait un espèce de manteau, ça lui fait une peau qui permet de garder tous les constituants dedans, qu'il n'y ait pas de perte d'azote, de perte de carbone, de perte d'azote. Et on l'utilise même, cette valériane, au printemps, là, quand il y a des risques de gelée, pour pulvériser sur des arbres fruitiers, pour les protéger un petit peu. Ça les protège ça va faire qu'ils vont, par rapport aux voisins, supporter 2 ou 3 degrés inférieurs par rapport aux autres. Hein, si on a une gelée à moins 20, il n'y a pas de miracle quand même. Hein. Donc voilà, c'est le valériane. Et on va mettre ça dans le compost. Alors ça aide le compost à fermenter, ça régule un peu la température, il va monter moins en température, quelquefois il y a des composts qui peuvent brûler tellement ils s'échauffent, et puis surtout toutes les mesures scientifiques qui sont faites sur ces composts qui ont les préparations biodynamiques montrent qu'il y a un taux de micro-organismes, un taux de vers de terre, de micro-organismes qui sont beaucoup plus riches que les autres composts. Alors ça, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais alors peut-être ces préparations qui sont en rapport avec les différents organes de digestion, de drainage avec la vessie, de digestion aussi avec le pissenlit. Peut-être que du coup, ça aide toute cette digestion de la matière organique pour faire un compost qui soit très riche. Voilà ce qu'on en fait.
Mais le compost est déjà décomposé quand on vient y rajouter les différentes préparations.
Merci de me faire préciser. Non, par exemple, si c'est un compost d'un fumier animal, c'est quand on sort le fumier de l'étable, voilà. Et si c'est quand on monte le tas de compost, parce qu'un tas de compost, ça se monte, ça doit avoir une forme. C'est comme si on veut faire lever du pain, ben on va pas l'étaler en fine couche. Il faut qu'il y ait une certaine inertie, il faut qu'il y ait une certaine masse pour que la fermentation se passe bien. Le fromage, c'est la même chose. Toutes les fermentations ont des règles bien techniques de largeur, de hauteur. Ça doit pas être un tas tout plat. Voilà. Bon, il y a certaines règles à respecter. Et j'espère qu'on pourra en faire un de ces jours dans le cadre de l'association de biodynamie, et on vous préviendra pour que vous participiez, que vous voyez un petit peu.
Ah ben volontiers, volontiers.
Voilà, donc je ne sais pas...
Il nous reste 3 minutes, Didier,
voilà.
pour bon, commencer
alors,
à éborder.
Simplement pour préparer dans 15 jours, ce que je voudrais dire, là j'ai parlé de rythme de l'hiver. Il y aura un rythme de l'été. En fait, il y a des... Et ça, c'est vraiment quelque chose... une sensibilité qu'on a en tant que biodynamiste, c'est de ne pas être hors rythme. C'est-à-dire d'être dans le cycle de la nature. Donc, il y a des rythmes terrestres, comme le rythme solaire. Alors, le rythme solaire, le premier rythme solaire, c'est le matin et le soir, le jour et la nuit. Et puis, le matin et le soir, il y a des vibrations différentes. Un lever de soleil, c'est pas du tout le même taux vibratoire qu'un coucher. Et quand vous assistez à un lever de soleil, vous avez des impressions intérieures qui sont complètement différentes du coucher de soleil. Ça, tout le monde peut le ressentir. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le rythme dans l'année. Donc, le soleil montant depuis Noël jusqu'à la Saint-Jean. Le soleil est de plus en plus haut dans le ciel. À la Saint-Jean, on a le jour le plus long, c'est là que le soleil est le plus haut. Puis le soleil commence à redescendre jusqu'à Noël, et ainsi de suite. Un deuxième rythme, donc on pourrait dire que le matin, c'est un rythme ascendant, où là, les plantes ont tendance à s'élever. Le soir, l'après-midi, c'est un rythme descendant, où on peut voir dans le jardin, en été, les feuilles des plantes qui sont un peu raplapla l'après-midi. Elles sont chaudes et elles ont perdu leur eau un petit peu, donc elles sont un peu flagada. Et le printemps, les plantes poussent énormément, puis à partir de la Saint-Jean, elles commencent à mûrir. On va avoir les récoltes, les céréales, et ainsi de suite. Donc, on a ces rythmes primordiaux, déjà, dans la journée. Alors, par exemple, et je vais sûrement m'arrêter là, parce qu'avant d'aborder les rythmes de la Lune et d'autres planètes, pour donner un petit exemple, moi, ma spécialité, c'est la plante médicinale. Donc, les plantes médicinales, on les récolte. Alors, on les récolte à certains moments aussi. Quand on récolte des fleurs, là actuellement on est en pleine récolte d'aubépines, donc quand on récolte les fleurs, c'est au moment de la floraison bien sûr. Mais quand on récolte les feuilles, on va les récolter à un moment où elles sont à leur apogée du rythme ascendant, c'est-à-dire une plante, elle commence par pousser vers le haut et ensuite elle va mûrir, elle va donner sa fleur et ses graines, et donc c'est juste à ce moment-là qu'on va récolter, juste avant qu'elle fleurisse. Et on récolte toujours le matin. C'est là que la plante a le plus de principes dans sa partie supérieure. Après, ça redescend dans les racines. Donc nous, le matin, c'est-à-dire jusqu'à midi au soleil, c'est-à-dire jusqu'à 2 heures dans notre heure administrative quelque part, puisqu'on a 2 heures de décalage par rapport au soleil. Donc, je crois que, voilà, déjà un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec des rythmes, et on en parlera plus largement dans 15 jours, je pense. Comment utiliser tous ces rythmes au jardin, comment, à quel moment semer, à quel moment récolter, voilà, et ainsi de suite.
On se donne rendez-vous le 13 juin pour, prolonger donc sur les rythmes, et peut-être qu'on parlera, parce que quand on n'y connaît rien en biodynamie, on parle beaucoup de cornes de vache, de bouses de vache.
Oui,
alors je ne sais pas si ça fait
pas... Il y a encore d'autres préparations, on en a encore pour des années.
C'est un univers, mais un océan aussi, la biodynamie. Merci Didier.
Voilà.
À dans 2 semaines.
Merci David, à dans 2 semaines. Au revoir.
CFM Radio. Votre radio dans l'Aveyron.